Christine.
Bonjour Hélène.
Alors, nous voilà aujourd'hui le lundi 8 février. On se retrouve pour notre capsule historique. Et aujourd'hui, nous avions choisi de parler du roi Louis XIV.
Oui.
Alors, le roi Louis XIV, ce qu'on sait, entre autres, c'est que son règne a été un des plus longs et sans doute le plus long en France. 72 ans de règne.
Non,
on peut dire qu'il a commencé la carrière très tôt. Un règne très long, placé sous le signe, alors on le sait, de la concentration du pouvoir, ce qu'on appelait l'absolutisme de droit divin, puisque lui-même il a écrit « Toute autorité nous appartient », alors quand il dit « nous », c'est lui.
Ah oui, bien sûr.
« Nous la tenons de Dieu sans qu'aucune personne, de quelque condition qu'elle soit, puisse y prétendre ». Voilà. Bon, on a tout dit quand on a dit ça. On sait que, pour ce qui regarde Valenciennes, Louis XIV a fait une joyeuse entrée à Valenciennes en 1680.
Oui.
Mais avant ça, en 1677, il s'est passé quelque chose à Valenciennes. Et c'est dont nous voulions parler.
Voilà. Il réclame la dot de Marie-Thérèse, bien entendu. Hein. Pas tellement pour lui, pour sa femme, mais surtout pour lui. Bon, donc, il va envahir la Flandre en 1676, donc tu vois 10 ans déjà avant le siège de Valenciennes. Mais il va, au traité d'Aix-la-Chapelle, il va se contenter d'abord d'obtenir Charleroi, Tournai, Douai, Armentières. On va surtout s'assurer dans le nord une ceinture de places fortes. Une place forte, c'est-à-dire une ville fortifiée. Et toutes les villes dont je viens de te parler sont des villes fortifiées. Et pourquoi s'assurer une ceinture de places fortes, à ton idée? Fermer la route de Paris. Valenciennes était disposée à se défendre contre le roi Louis XIV. Pourquoi ? Parce que Valenciennes, depuis, on pourrait dire la nuit des temps, a toujours été assiégée. Elle a supporté bien des sièges. Donc ce siège nouveau, ça serait bien passé, mais elle est tout à fait confiante, parce que son système de défense est au point.
Est abouti, d'accord.
Voilà. Alors, par exemple, ils vont faire entre la porte de Cardon, c'est-à-dire la place Cardon aujourd'hui, et la porte de Famars, c'est-à-dire la place du Canada, ils avaient créé sur la Ronelle des écluses.
Oui.
Des écluses qui permettaient d'inonder les quartiers voisins jusqu'à Marly. Inonder, ça veut dire que les ennemis
ne
pouvaient
pas
trop passer.
Oui.
Et qu'on dit toujours les fortifications de Vauban. Ça n'est pas exactement ce qu'il faudrait dire. Parce que Valenciennes était fortifiée bien avant Vauban.
Bien sûr.
Puisque quand Louis XIV arrive, il y a quand même les remparts, les fortifications et tout ça. Mais il faut reconnaître que Baudouin a travaillé sur les fortifications qui existaient déjà et d'une façon vraiment exemplaire. Hein. C'était un grand stratège. Voilà, je le dis parce que j'ai peur de l'oublier. Alors, donc Louis XIV va mener en 4 ans, de 1673 à 1677, il va mener une guerre de siège. Guerre de siège parce que une ville fortifiée, on ne peut pas rentrer comme ça, donc il faut assiéger la ville, et c'est ce qu'il va faire. Il va prendre d'abord Condé et Bouchain en 1676.
C'est-à-dire que ces villes ont été assiégées puis se sont rendues?
Oui.
D'accord.
Oui, tu veux voir Valenciennes, il s'est rendu aussi. Donc, il prend Condé et Bouchain en 1676. Puis, il va laisser Valenciennes et Cambrai en attente. Valenciennes et Cambrai seront les deux villes, les dernières prises, si on veut. Hein. Mm-hmm. Et à la fin du mois de février 1677, donc, hein, comme aujourd'hui, hein, en février, les troupes françaises cernent la ville. Hein. On a déjà cerné la ville bien avant la prise de Valenciennes. Qui est-ce qui est là? Eh bien, il y a M. Louvois, bien sûr, enfin, connaît au moins deux noms. Et puis Vauban. Vauban qui doit diriger les travaux du siège. Parce que Vauban n'est pas seulement un architecte, comme on pourrait le croire. Vauban, d'abord, était un soldat, il s'est battu, et Vauban dirige les travaux, il dirige les sièges. Donc il est toujours d'un secours vraiment excellent Major, pour oui. L'armée française. Alors le 4 mars, Louis XIV va quitter Saint-Germain-en-Laye, où il habite bien sûr, et il arrive, pour venir sur Valenciennes. Il arrive lui-même, et ça c'est une chose dont on peut être fier si on veut, c'est que si Louis XIV se dérange, c'est que il sait que ça va pas être facile.
D'accord.
Hein, sinon, il envoie ses lieutenants, ses amiraux, tout ce qu'on veut. Mais lui, il va se déranger en personne. Valenciennes, c'est quelque chose. Hein. Donc il arrive, il s'en va le 4 mars et il arrive au Mont-Huy. Hein, le Mont-Huy où il y a les universités aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui.
Et il va dresser sa tente à fin mars. Enfin, il va dresser, il va le faire dresser, hein. Il ne va pas mettre sa tente, il ne va pas dresser sa tente tout seul. Donc, au pied du Mont-Huy. L'attaque contre Valenciennes était considérée comme une entreprise militaire très importante. Hein. Donc, mais ils déchanteront après, moi. Donc le roi venait présider une armée qui était déjà en place, hein, je te l'ai dit, avant qu'il arrive, j'avais déjà... il avait lui-même amené, donc 50 000 hommes, plus Louis XIV arrive, avec 10 000 hommes encore. Hein, donc imagine, ça fait 60 000 hommes. Donc les Espagnols donc la croyaient imprenable, cette ville. Donc c'est pour ça qu'ils avaient amené tant de soldats. Et la ville elle-même, elle avait confiance dans ses remparts. Hein. Et bon, au point de vue militaire, c'était vraiment la catastrophe à Valenciennes. Si les Français avaient 60 000 hommes à la disposition, à Valenciennes, tiens-toi bien, ils n'avaient que 2 000 fantassins et les 1200 bourgeois des compagnies de la ville. Hein. C'est ce qu'on appelait les compagnies bourgeoises. Donc c'était des Valenciennois, des commerçants, des artisans, tout ce que tu veux, qui, après leur travail ou bien journée plus sans travail, ils allaient s'entraîner pour défendre la ville en cas de gros pépins. Hein.
C'était un peu les réservistes de l'époque.
Voilà, c'était des réservistes qui étaient, ma foi, bien entraînés. Hein, mais évidemment, quand tu comptes 60 000 hommes, et en face, qu'est-ce qu'il y a? 2 000 fantassins.
Alors, est-ce que ça traduit une confiance absolue dans les fortifications?
Oui, c'est ça. D'accord. Ils se disent que leur ville est imprenable.
D'accord.
Hein, que quel que soit le... Enfin, ils ne s'attendaient peut-être pas non plus à avoir 60 000 hommes devant leurs yeux. Ils n'en ont peut-être jamais vu autant. Mais donc, tu imagines, 2 000 hommes, enfin, des soldats, 1200 compagnies, la compagnie bourgeoise, et une petite cavalerie espagnole. Donc ils aperçoivent l'ennemi qui est en train de creuser le terrain, mais ils n'ont pas l'air
de mesurer.
Enfin, je dis pas qu'ils ne se font pas un peu de soucis quand même, hein, mais ils sont confiants. Hein. Donc, et l'objectif de Vauban, hein, parce qu'il est toujours là, notre Vauban, était les ouvrages, c'est-à-dire, hein, je dirais, les forts, les bastions, les choses comme ça, les ouvrages qui défendaient l'ancienne porte d'Anzin. Parce que c'est par là qu'ils vont arriver. Hein. Alors, l'ancienne porte d'Anzin, pour bien la situer, elle se trouvait au bout de la rue Beauchon aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si tu vois où c'est la rue Beauchon.
Moi non, mais certainement que nos auditeurs.
Sur la place du Neubourg, c'est la petite rue, une rue qui remonte au bout, tout au bout de la place et qui débouche aujourd'hui sur l'esplanade. L'esplanade n'existait pas, hein, à l'époque, c'était pas, elle n'était pas, c'était fait beaucoup plus tard. Vauban défendait des ouvrages donc qui correspondaient à cette porte d'Anzin parce que lui, il savait bien que c'est par là qu'il allait rentrer.
Mmh.
Alors, peut-être rentrer dans le vif du sujet quand même. Hein. Alors, bon, alors cette porte d'Anzin, elle était assez importante. Bien que quand on a un livre sur les fortifications de Valenciennes, on en parle pratiquement très peu, cette porte d'Anzin. Elle n'était pas particulièrement jolie, il y en avait d'autres beaucoup plus belles, beaucoup plus jolies. Mais celle-là, elle avait quand même une importance, la preuve c'est que les Français vont rentrer par là. Alors cette porte d'Anzin, pareil j'ai des photos, mais on fera une exposition de ces jours. Hein.
Ah oui, avec plaisir.
Alors, cette porte d'Anzin, en fait, comment je t'expliquerai, bon, on y avait un pont-levis, hein, un peu
oui.
Comme dans les châteaux forts,
mm-hmm.
Un pont-levis, donc tu levais le pont-levis, ah ben, l'ennemi ne pouvait pas rentrer.
Mm-hmm.
Hein, c'est pas, bon, alors, le pont-levis, tu passes le pont-levis, tu vas te trouver au milieu d'un terre-plein, une sorte de cour,
oui.
Pareil, j'ai toutes les photos. Et puis, tu as encore un autre pont. Hein, en traversant la cour, si tu veux, tu passes deux ponts.
Hein. Mm-hmm.
Voilà. Donc, c'est un peu pour expliquer un peu ce qui va se passer après.
Pour planter le décor, oui.
Alors, le 12 mars, le feu est ouvert. Hein, on bombarde le feu dès le matin et il va durer toute la journée. Ça, on ne rentre pas comme ça sans avoir d'abord bombardé et tout ça. Hein, mais il faut un peu affoler la population. Hein,
la population pas. Était entièrement restée à l'intérieur.
À l'intérieur, bien
oui, d'accord.
Sûr, bien sûr. Et même les, si tu veux, les, comment je dirais, les gens des villages d'à côté, tout ça, souvent se réfugiaient
oui,
aussi
d'accord.
Dans le centre de la ville. Hein.
Voilà, c'est peut-être pas une bonne idée là.
Oui. Alors, le matin, donc le matin du 12 mars et toute la journée, Valenciennes va être bombardée. Hein. Il faut un peu affoler la population. On se rend compte qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Les projectiles vont atteindre plusieurs quartiers et entre autres aussi le poste du Noir Mouton. Je ne sais pas si tu vois... Il y a encore à Valenciennes une rue du Noir Mouton. Elle se trouve au milieu du pont Jacob, si tu veux.
D'accord.
C'est une
oui.
Petite route qui descend.
Je vois.
Il y a Salonge-Lescaut, donc bien sûr. Et puis maintenant, c'est des bureaux, des choses comme ça. Mais à l'époque, pourquoi le Noir Mouton? Eh bien, parce qu'il y avait tout près une auberge qui s'appelait Au Noir Mouton.
Mmh.
Alors, le poste du Noir Mouton était très important parce que Il commandait l'entrée de la ville, si tu veux. Mais les assiégeants, les Français, sont pas très bêtes, peuvent pas être qu'une note. Donc, ils vont bombarder le Noir Mouton. Donc, évidemment, les Valenciennois, enfin, les peu de Valenciennois qui défendent la ville, il y en a une partie qui sont au Noir Mouton. Mais dans ce cas-là, ils sont obligés de partir, de s'échapper, de se replier. Et donc, c'est les Français qui vont occuper le poste du Noir Mouton.
Ah, d'accord.
Hein, donc, ils ont chassé les pauvres Valenciennois qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas, assez forts pour tenir tête aux Français. Donc, ils se replient très vite dans la ville, mais évidemment, l'ennemi s'installe au Noir Mouton et il installe aussi des canons, des mortiers, etc. Alors, ça c'était le 12 mars. Hein. Donc, le lendemain, le faubourg. 13 mars. Les Valenciennois et les troupes, l'armée valenciennoise est chassée du faubourg de Cambrai. Mm-hmm. Hein, vous voyez un peu où c'est le faubourg de Cambrai.
Oui, oui.
Bon. Et donc, la ville n'avait pas été épargnée, forcément. Ils ont lancé des boulets de canon, des mortiers. Donc, il y a 15 000 boulets.
D'accord.
Et 2500 bombes qui avaient presque entièrement détruit les quartiers disons, des portes entre la porte de Notre-Dame, la porte d'Anzin, la porte de Tournai. La porte de Tournai, c'est ce qu'on appelait aussi plus tard la porte de Lille, qui se trouvait sur la place de la République.
Mm-hmm.
Tu vois où c'est,
mm-hmm.
hein? Bon. Alors, donc tu vois, la ville, elle est déjà bien endommagée quand même.
Oui.
Hein. Et les gens, enfin, ceux qui ne sont pas militaires, les femmes, tout ça commence quand même à avoir un peu peur. Hein. Alors, le 10 mars, le marquis, parce que celui qui commande la place forte de Valenciennes, parce qu'il y avait un commandant de place. C'est-à-dire que c'est lui qui dirigeait militairement la ville, si tu veux, mm-hmm. hein, quand elle était fortifiée. Donc il y avait un commandant de place, et puis le prévôt, les échevins, tout ça, c'était pour le côté politique, le côté de ville. Alors le commandant de place, c'était le marquis de Risbourg, qui malheureusement est très gravement blessé. Donc, impossible pour lui de continuer. Et donc, on va créer une sorte de conseil de guerre. Alors, après, eh bien, nous voilà le 16 mars. Hein. Alors, Vauban fait savoir au roi, il va voir le roi, parce qu'ils étaient presque amis quand même, que tout est prêt, hein, que tout est prêt et qu'on peut attaquer. Mais ce qu'il va faire, Vauban, parce que normalement, dans la stratégie militaire des places fortes, on assiège une ville, on entre dans une ville à la fin de la journée. C'est comme ça.
C'était très codifié, oui.
Les fins de journée. Mais Vauban, qui est loin d'être bête, il se dit, on va les attaquer le matin très tôt. Alors, le matin très tôt, ça veut dire que les gens ne les attendent pas. Hein.
Mm-hmm.
Bon. Alors, le signal, on décide d'attaquer la ville, d'assiéger la ville le lendemain 17 mars, donc à 9h du matin. Bon, Donc tout ce qui est, comment, les mousquetaires, la garde des militaires vont coucher dans la première parallèle, c'est-à-dire la première tranchée,
Oui.
et ils sont munis, bon, c'est encore assez, enfin c'est pas aussi moderne comme aujourd'hui, munis d'échelles, de cordes, de haches. Ah, ils sont prêts, parce qu'il faut grimper, il
Passer
faut
les
passer
fortifs,
au-dessus
bah
des
oui.
remparts, hein, bon. Donc ils vont passer la nuit là. Bon, et il se passe rien, donc ben, il ne s'est rien passé ce soir-là, il ne se passera rien, se disent les Valenciennois. Donc, on peut quand même aller se coucher, se détendre, même les soldats, s'ils sont de faction et tout ça, eh bien, ils vont pouvoir se détendre. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Donc, à 9 h du matin, va retentir 9 coups de canon, venant des Français, bien sûr. C'est le signal. C'est le signal du début
De l'attaque.
de l'attaque. Hein. Alors, tous ceux qui sont dans la première parallèle, les mousquetaires, les soldats, tout ça, sortent de la première parallèle et avec leurs échelles, avec leurs hachettes, leurs cordes, enfin, ils sont prêts à entrer dans la ville. Alors, ils vont franchir le premier rempart. Ah, parce qu'il y a, si on a les photos, on voit bien, il y a un rempart, et derrière, il y a d'autres choses encore. Donc, ils franchissent le premier rempart, et ils vont tomber sur des soldats français, complètement harassés, complètement presque endormis.
Aïe, aïe,
Alors,
bien.
bien sûr, la ville est prise, tout ça, mais Louis XIV n'est pas arrivé, n'est pas venu jusqu'à Valenciennes. Il est resté au camp de Famars, là-bas, au Mans, oui, et on allait lui apporter les nouvelles, etc. Donc, le 20 mars, bon, il y a une délégation du magistrat. Le magistrat, c'est le conseil municipal d'aujourd'hui, si tu veux, le prévôt et les échevins. Donc, il y a des échevins qui sont désignés pour aller rencontrer le roi dans sa tente à fin mars, hein, au Mont-Vie. Donc, ils s'en vont. Pour ça, on peut remercier Louis XIV. Il n'a pas été vache. Hein. Il n'a pas été.
On retiendra
Non,
que
mais
Louis
c'est vrai.
XIV n'est pas une peau de vache.
C'est pas une peau de vache, non. Donc, mais les Valenciennois, ils sont partis là, en disant, on va demander ci, on va demander là, et ceci et cela. Donc, ils arrivent devant Louis XIV. Ils se prosternent, bien sûr, parce qu'à l'époque, bien souvent, les souverains, on ne les voyait jamais. Hein. Maintenant, on a des photos, on a ceci. Mais à l'époque, on ne savait pas de comment a été fait le roi. Hein.
Bien
Bon.
sûr.
Donc, bon, ils se prosternent et bon, ils parlent. Bon, je vais épargner tout ça, bien sûr. Mais ils vont demander à Louis XIV qu'ils gardent leurs privilèges. À Valenciennes, on avait des privilèges, hein, donc enfin, plusieurs choses. Et puis aussi, enfin, Louis XIV a interdit que l'on pille la ville. Et ça, c'est rare. C'est rare parce qu'une ville, quand elle est prise, hein, qu'elle soit fortifiée ou non d'ailleurs, eh bien, ça donne lieu à des choses épouvantables.
Oui,
Hein, le
oui,
pillage, les viols,
oui.
les crimes, enfin tout ce qu'on veut. Et ça, Louis XIV l'a interdit. Donc, on peut lui dire merci, hein, quand même. Et alors, bon, les Valenciennois ont plein de choses à demander. J'ai toute la liste, hein, mais il y a 20 et des clauses à demander. Donc, Louis XIV, bon, oui, ça, les privilèges et les biens, parce que quelquefois, et bien souvent, les biens étaient confisqués, hein, Les Valenciennois pourront garder tous. Mais pour le reste, bon, il faut qu'ils réfléchissent quand même. Et les Valenciennois seront obligés de bâtir à leurs frais une citadelle. Hein, ça, c'est dans les clauses de l'abdication. Et à leurs frais aussi de rebâtir tout ce qui a été détruit par les canons et par les mortiers. Hein, donc tout ça, c'est aux frais de la ville.
Est-ce qu'on sait si,
Mais...
excuse-moi Christine,
Ouais.
si la population a, la population civile a été très touchée?
La population civile a été très touchée, oui, parce que bon, on n'était pas malheureux, hein. On était de domination espagnole. J'aime pas quand on me dit on était espagnol. Non, on n'était pas espagnol, mais on était sous la domination espagnole. Mais on n'était pas malheureux, je te dis, il y avait très peu d'Espagnols. On vivait normalement, on avait nos privilèges, on avait nos coutumes. Les Espagnols ne nous embêtaient pas. Donc Valenciennes ne voit pas pourquoi, hein, on deviendrait français. Donc ils ne portaient pas Louis XIV dans leur cœur au départ. Mais d'abord, Louis XIV n'est pas venu. Enfin, il a démonté sa tente de Famars et il est reparti sur Saint-Germain-en-Laye. Il n'aurait pas osé se présenter en héros,
En vainqueur, oui.
dans Valenciennes juste à cette époque-là.
D'accord.
Il a fallu que les gens s'habituent à cette idée que désormais ils étaient français. Là, on peut dire qu'on était français. Mais il est venu quand même, hein, quand ça s'est tassé un petit peu, quand on a dit, bon, bah, il n'y a plus trop de danger. Donc, il est venu 4 ans, en étant 77, 3 ans plus tard, il est venu en 1680 faire un petit passage comme ça. Et il est revenu encore 3 ans après. Et là, il est quand même resté 3 semaines.
D'accord,
Trois
d'accord.
semaines à Valenciennes. Il a même fait la. Hein?
D'où peut-être ce qu'on a appelé la joyeuse entrée 3 ans
La joyeuse
après.
entrée. Ça ne se disait plus trop à l'époque, hein. Mais enfin, c'est vrai que c'était une sorte de joyeuse entrée. Il a été acclamé. Et c'était au moment de la fête Dieu, donc c'était mai-juin. Et il a fait la procession de la messe, de la fête Dieu, en tenant un flambeau à la main et entouré, parce que tu sais bien qu'il venait pas tout seul, hein. Il venait avec une partie de sa cour, et puis bon, ses officiers, ces choses comme ça. Donc ils ont fait la procession de la fête Dieu, et il est quand même resté 3 semaines à Valenciennes. Ça a coûté cher, évidemment, à la ville, hein, mais
Bien
enfin
sûr.
bon.
Eh bien, écoute, Christine, c'est un épisode que j'ignorais de l'histoire de Valenciennes. Nous retiendrons donc le 17 mars 1777 à 9h30, où
9h30,
Valenciennes
oui.
est devenue française.
Oui, à peu près, puisque le signal a été donné à 9h, donc en une demi-heure, donc il faut compter 9h30, 10h moins le quart, quoi.
Merci infiniment,
Ben,
Christine. C'était
de
vraiment
rien.
un épisode très bien relaté. Je l'ai vécu.
Voilà. C'est pas
Merci.
trop endommagé quand même.
Ça
Ça veut.
va. Je te remercie. Je te dis à bientôt, Christine.
À bientôt!